Frère Clément, c'est frère qui prie. Je sais pas où est le roi, je sais pas où est le rassemblé. C'est un vrai bien-aimé qui était à l'école royale militaire avec Frère Nestor. Le Seigneur bénisse. Salut tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On a pris du retard. On va prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous avons ce privilège de nous mettre dans ta présence ce soir encore pour quelques paroles d'exhortation afin que nous puissions bien tenir la route, que la lampe qui est la parole éclaire notre sentier pendant que nous accomplissons chaque pas. Nous te demandons de nous assister, de nous enseigner, de nous ouvrir ta parole, que notre sentier soit éclairé et que nous puissions rester. S'il y a quelques obstacles, c'est vers toi que nous levons les yeux, dans ta direction que nous regardons, afin de franchir l'obstacle. Nous te demandons de bien vouloir nous pardonner nos fautes, nos péchés, que ta grâce abonde en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. On va lire dans 1 Samuel 17. Verset 52. À 54. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Scaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et y mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons-nous nous asseoir. Disons, dans au verset 52, à la poursuite des Philistins, ce sera le titre. Pour les poursuivre, ce n'est pas parce que Goliath est terrassé qu'il faut arrêter les Philistins. Le diable, il ne respecte jamais ses engagements. Le diable va vous promettre des choses et il sera le premier à violer cela. Le seul qui respecte ses engagements, c'est Dieu. Ce Goliath avait dit, il avait dit ceci, si l'un de vous me bat, si votre champion me bat, nous serons vos sujets, n'est-ce pas? Si moi je le bats, vous serez mes sujets. Donc, au verset 10, il dit ceci. Au verset 8, voilà. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Vous voyez? Et nous connaissons l'histoire. Lorsque Satan lance ce genre de défi, nous avons un homme. Un homme, n'est-ce pas, pour venir nous aider là où le problème nous semble costaud. Il n'y a pas de problème qui dépasse Dieu. Il n'y a pas de problème qui dépasse Jésus-Christ. Et les Philistins, lorsque leur champion a été tué, la tête a été coupée, les Philistins ne se sont pas rendus. Ils ont fui. Et les enfants d'Israël ont bien fait de les poursuivre. Ils les ont poursuivis. Il y a aussi un but à ça. Dans Josué, chapitre 1er, verset 1er à 4. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'est un don de Dieu. Et si nous continuons à lire le livre de Josué, nous voyons que ce don de Dieu, pour l'obtenir, ils ont dû se battre. Dites amen à ça. Chaque don de Dieu, ce que Dieu nous donne, nous n'avons pas à rester assis, n'est-ce pas, à nous tourner les pouces pour que ça nous tombe dessus, mais nous devons nous battre. C'est un pays que Dieu leur a donné et ils ont dû se battre. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Maintenant, lorsque ils vont prendre le territoire. Au lieu de tout prendre, ils ne vont pas tout prendre. Dieu va d'ailleurs le faire remarquer à Josué. Dans Josué 13, nous lisons, dans Josué 13, Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge. Et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Il en reste encore beaucoup à prendre. Amen. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins. Tous. Donc, là où étaient les Philistins avec Goliath, ça appartenait à Israël. Mais Israël n'était pas arrivé jusque là-bas. Israël n'est pas arrivé jusqu'à aller prendre. Et Dieu, justement, qui est déterminé à leur donner ce pays, pourquoi? Parce qu'il a juré par son nom. Ça va? Il a juré à Abraham qu'il le leur donnerait. Et quand Dieu jure, Dieu veut que ça s'accomplisse. Parce que Dieu ne peut pas être tenu menteur. Dieu est véritable. Amen. Alors, il dit, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéscuriens, depuis le Schicor qui coule devant l'Égypte, jusqu'où? Jusqu'à la frontière d'Écron. Donc, il faut entrer à Écron, jusqu'à sa frontière. Dites amen à ça. Au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méara, qui est au Sidonien jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Alors, ils ne vont pas pouvoir prendre tout cela, ils vont juste prendre une petite partie. Et pourtant, Dieu leur a commandé de tout prendre. Et la manière de prendre, pour prendre, il faut fouler de la plante des pieds le territoire. Alors, les Philistins ont fui, ils ont fui vers chez eux, et en fuyant vers chez eux, les Israélites, les Israéliens les ont poursuivis jusque là-bas, leur permettant ainsi de fouler ce territoire qui était à eux, de le fouler de leurs pieds. Amen. C'est ainsi que certains combats vous sont apportés. C'est pour que vous puissiez prendre possession de vos promesses. Dieu nous a promis beaucoup de choses, beaucoup de dons. Les enfants d'Israël ont réellement pris certaines parties du pays, mais ils n'ont jamais possédé la totalité du pays que Dieu a promis à Abraham. D'où les problèmes d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Normalement, les Philistins sont les ancêtres des Palestiniens que nous voyons. Normalement, les Philistins, Dieu les avait chassés de cet endroit-là, mais Dieu n'a pas fait souffler de vent pour qu'ils soient emportés. Dieu a dit à Israël, occupez le pays. Je vous ferai avancer devant eux. Ça va? Et Dieu avait dit à Abraham, et il avait dit, c'est un pays que je te donne. C'est ainsi que Dieu a envoyé David, pendant que tout Israël avait peur de combattre ce Philistin. Il y a de ces choses qui nous sont destinées, qui sont à certains endroits où que nous avons peur de franchir. Peut-être parce qu'il faut traverser une ligne, sachant qu'il s'agit d'une ligne de démons. Alors, il y a peut-être beaucoup de gens, mais si, vous savez, si vous avez une promesse qui traîne quelque part, je dis souvent, j'aime pas aller à Matongé, s'il y a quelque chose qui est à vous, qui est à Matongé, soyez un enfant de Dieu, allez le chercher. Il ne faut pas avoir peur des démons qui sont à Matongé. Ce sont les démons de Matongé qui doivent avoir peur de vous. Ça va? Et vous pouvez paraître comme des minus devant eux, mais vous êtes grand avec ça. Quand David a approché Goliath, quand il s'apprêtait à l'affronter, Saül lui a donné ses armes. Il a essayé de l'habiller comme lui, Saül, va s'habiller. Évidemment, si vous vous habillez comme cela, comme le monde, comme si vous combattiez la chair et le sang, eh bien, c'est sûr que ça ne marchera pas. Si on revient à 1 Samuel 17, nous allons voir ici David, Saül, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Ça va? David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. » Il n'était pas habitué à ses armes. Moi non plus, je ne suis pas habitué au revolver, ni au canon. Moi, il y a une arme avec laquelle je suis habitué, c'est la prière. Amen. Les canons, les missiles, les boutons à pousser, je ne suis pas habitué à ces choses. Par contre, j'ai des armes, n'est-ce pas, que Dieu m'a données dans Éphésiens 6. Ce sont ces armes-là que j'utilise pendant que j'avance, pendant que j'affronte l'ennemi. Amen. Et Saül va lui donner ses vêtements. David refuse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend en main son bâton. C'était un ustensile pour les bergers. Chaque berger avait son bâton. Moïse, quand il gardait le troupeau de son beau-père, il avait son bâton. Amen. David avait le sien. Et quand David dit « L'Éternel est mon berger », il parle aussi du bâton du Dieu vivant, de l'Éternel. C'est l'outil, c'est l'arme du berger pour la protection des brebis. Des brebis qu'il doit garder, surtout des animaux sauvages. Et il prend le bâton, on parlera peut-être du bâton une autre fois, et de ses armes. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Si on continue l'histoire, on verra que pour battre qui ça, Goliath, une pierre aura suffi. Mais il en prend 5. Ça veut dire que ne vous contentez pas juste de battre Goliath. Parce que après Goliath, il y en a d'autres. Il en a pris 5. Vous savez que il avait des descendants en 2 Samuel 22, je crois, si je ne me trompe pas. Il avait des descendants, ou je ne sais pas, ou des frères. 2 Samuel 21, pardon. Verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishpi Benob, l'un des enfants de Grapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. C'est beaucoup. C'est peut-être 100, une centaine de kilos, je n'en sais rien, mais c'était beaucoup. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruya, vint au secours de David, un Israélite, frappa le Philistin et le tua. Vous savez, les Philistins, ils avaient des Anakim chez eux. Le peuple des Philistins, ce sont les Anakim, de grande taille. Lisez ça dans le Nombre. Et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe. » Donc, c'est nous qui allons combattre. Soyons de ces vaillants-là. Pendant que notre David, savons, il les a tous battus là-bas à Golgotha, maintenant on peut avancer, n'est-ce pas, avec assurance que nous pouvons les battre, ces Philistins-là. Il y eut encore, les batailles ne sont pas finies. Ce n'est pas fini avec Goliath, même s'ils ont fui. Il y eut encore après cela une bataille à Gob. Avec qui? Avec les Philistins. Alors Sibekai, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. C'est pas fini. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Yaré, au Réguim de Bethléem, tua Goliath, vous voyez, Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand, comme son ancêtre. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts au lieu de 5 à chaque main et à chaque pied, 24 doigts en tout. donc 12 doigts et tous 12 orteils, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, comme son ancêtre. Oui. Et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Vous comprenez pourquoi, prophétiquement, David prend cinq pierres. Il y avait Goliath et il y avait quatre d'autres à tuer par après. Il savait qu'une seule pierre suffirait. Parce que rater Goliath aurait signifié la mort de David. Vous ratez Goliath comme cela, une cible aussi difficile à rater, parce que il était vraiment immense. Vous le ratez, eh ben, le temps de recharger votre fronde, il est sur vous. Et vous savez, ne tirez pas à la fronde n'importe qui. C'était des gens qui étaient exercés. Exercés à la fronde, c'est comme ceux qui s'exercent à la prière. Et ceux qui étaient exercés à la fronde, ils savaient comment l'utiliser. Amen. Je crois que c'est dans Juges, chapitre 20. Verset 14. Les Benjamites, il y a eu guerre entre eux, sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites, ils étaient avec Judas, hein, sortis des villes, fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Alors, faut être un chrétien d'élite, hein? Des hommes d'élite, regardez. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite, ils étaient des gauchers. Tout cela pouvait, ils pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. La fronde du chrétien. Ça ne manque pas le démon. Quand ça tire, vous, que ça soit à bout portant ou de loin, hein, vous ne pouvez que l'attraper. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont battu Goliath, mais ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont poursuivi Goliath afin de prendre ce qui leur appartenait, de fouler avec la plante des pieds ce territoire qui leur appartenait. Écron, c'est l'extrémité nord. L'extrémité tout à fait au nord. Qui ça? Ils ont poursuivi jusqu'à Dan, c'est une autre extrémité du côté de la mer. Donc, quand Dieu vous demande de prendre, de tout prendre, il faut tout prendre. Ne vous arrêtez pas juste à dire, oh, j'ai battu Goliath. Non. C'est comme dans Marc, Dieu nous fait aussi certains dons. Dans Marc 16, Jésus-Christ nous dit ceci. Nous savons donc que les enfants d'Israël, ils n'ont pas conquis tout le pays, ils n'ont pas possédé la totalité du pays que Dieu a promis à Abraham. Qui va accomplir le travail? C'est Jésus-Christ quand il viendra. Quand Jésus-Christ viendra, il prendra tout le pays. Toutes les agitations qui se font aujourd'hui en Israël, avec Netanyahou et ses ministres, toutes ces agitations-là ne les mèneront à rien. Parce qu'ils ont devant eux un Goliath, l'ONU. L'ONU les empêche de prendre, leur interdit de prendre ce territoire-là. L'ONU leur dit que, voilà, l'ONU, ce sont les nations. Ils leur interdisent, qu'ils leur disent, voilà, cette portion de terre-là appartient aux Palestiniens. Mais eux, ils disent non. Notre Dieu, le Dieu d'Israël, a dit que c'est à nous. Or, le Dieu d'Israël est le Dieu de tout l'univers. Et il est Dieu en Israël, il est Dieu dans les nations. Et chaque nation, Dieu a donné son territoire. Quand il a chassé les Éviens, les Girgasiens et les consorts, eh ben, ils sont partis quelque part. Qu'ils restent là-bas. Et ils ont de vastes territoires. Quand vous voyez des pays comme la Jordanie qui sont à peine occupés, il y a de quoi se poser des questions pour leurs frères palestiniens. Ils ont leur ville, comment dirais-je, leur ville de pèlerinage, ils ont la Mecque, mais ils veulent encore Jérusalem. Le jour où Israël s'attaquera à la Mecque pour prendre la Mecque, là on peut comprendre. Hein? Ils ne le feront pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas besoin. D'ailleurs, ça n'attire pas du tout. Dans Marc 16, 15, 16, pardon. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. OK? On le fait. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. OK? On l'a fait. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'il y a un point? Est-ce que c'est le point final? Non. Ça continue. Alors, on doit continuer. Ne vous contentez pas du fait que vous êtes sauvé. Parce que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il faut les poursuivre. Dieu veut que nous les poursuivions. Jésus-Christ veut que les siens, que ses rachetés, chassent les démons. Mais ils n'ont pas de territoire. Si, ils ont la géhenne, c'est à eux qu'ils aillent là-bas. Poursuivez-les. David, notre David à nous, l'a vaincu à Golgotha, leur chef, mais les autres qui sont là, à nous de les poursuivre et de les chasser et de prendre possession de ce qui nous appartient. Qu'est-ce qui nous appartient? La santé, la liberté, l'adoration en esprit et en vérité. Ils n'ont pas à venir nous enquiquiner pour cela. Ils parleront de nouvelles langues. C'est à nous tout ça. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, tant que ces choses n'y sont pas, eh bien, nous sommes heureux. Nous essayons parfois de nous contenter juste du fait que nous serons sauvés. Non, tant qu'il y a des malades, tant qu'il y a des nécessiteux parmi nous, nous devons continuer la lutte. On doit poursuivre ces démons-là. Ils viennent sous la forme de cancer. Ils viennent sous la forme d'hypertension. Ils viennent sous la forme de beaucoup de maladies, par des syndromes rares. Des maladies génétiques ou des trucs pareils, ils viennent sous cette forme-là. Nous devons continuer à les poursuivre. Le combat pour nous, ben, David a fait, notre David, il a fait le gros du boulot par cette souffrance, dont il a porté nos souffrances, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos douleurs, Tout cela, c'est la vérité. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc, il leur a dit tout ce qu'il fallait. Donc, il ne faut pas en rester là. Et quand Pierre a exposé le problème à la Pentecôte, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, Pierre dit ceci. Il donne d'abord, il fait son discours, il fait sa prédication, il apporte son sujet, Actes chapitre 2, au verset 22, il dit, « Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il a été livré, ça n'a pas surpris Dieu. Jésus savait dès le départ qu'il allait être livré. Il l'a dit aux disciples. Il a dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs et ils en feront ce qu'ils voudront. Il le leur a dit, ils n'étaient pas surpris du tout. Oui. Selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Eh bien, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et il va insister, il va dire, c'était le juste, celui que vous avez tué. Alors, ceux qui ont écouté cela, qui ont été touchés par la parole, posent la question, après avoir entendu ce discours, verset 17, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, mais que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. » Alors, maintenant, vous vous faites baptiser, vous reconnaissez vos péchés, vous vous faites baptiser, vous vous engagez à suivre la voie que Dieu a tracée, vous êtes certainement sauvés et vous vous arrêtez là. Non. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Encore un don. Oui. Ce n'est pas, ne vous arrêtez pas à la repentance. La repentance, c'est un bon pas en avant. Les eaux du baptême, le baptême d'eau, c'est un bon pas en avant. Mais continuez à poursuivre. Parce que ces démons-là continuent à rôder. Ce n'est pas votre baptême qui va les faire fuir. Intervenez à ça. Ce qu'il y a, Dieu doit vous prendre et vous placer en sécurité. Il vous place en sécurité dans un corps par le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit vous place dans un corps, dans le corps de Christ, là vous y êtes en sécurité. Là le diable ne sait plus venir vous chercher. Et toutes les promesses, par exemple ce qu'on a lu, Matthieu 16, 15, 2, 15, 2 Corinthiens, pardon, chapitre 1er. Verset 18. 2 Corinthiens 1, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Est-ce que vous le croyez? Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un menteur, n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, Abraham dit, il est plus que capable de l'accomplir. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Que bon, tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Non, c'est pas ça. Aussi vrai que donc Dieu est fidèle. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Ce qui signifie que Dieu est déterminé à vous accorder ces choses-là qu'il vous a données. Mais pour les avoir, il faut se battre. La bataille peut se mener à genoux. La bataille peut se mener, je ne sais pas dans quelle position vous priez. Vous savez, quand vous êtes habitué à prier dans une position, si vous priez dans une autre, c'est compliqué. Je ne sais pas, lorsque je dois prier pour quelqu'un, je dois absolument descendre sur mes genoux, même quand les genoux font mal. Parce que quand je prie en restant couché, ça ne marche pas. D'ailleurs, quand je le fais, je m'endors. Oui. Je ne sais plus ce que j'ai dit dans la prière, je m'endors. C'est pourquoi il vaut mieux se mettre à genoux et prier. En lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne, pas certaines promesses, mais toutes les promesses. Amen. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est en Christ qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui nous pousse, n'est-ce pas, à aller conquérir les promesses qui nous attendent. Donc, la promesse, c'est ceci. Jésus leur a dit, attendez la promesse, n'est-ce pas? Quelle promesse? Une puissance viendra d'en haut, n'est-ce pas? C'est ce qu'il leur a dit. Et ils ont attendu, ils ont suivi le Seigneur, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont arrivés à Golgotha, ils ont eu un moment de flottement, et puis Jésus s'est manifesté à eux, Jésus ressuscité s'est manifesté à eux, ils ont eu une espérance nouvelle, et ils ont continué la marche à le suivre, et puis le Seigneur, il allait partir, ils l'ont suivi jusqu'au bout là, jusque là où, au moment où le Seigneur part, maintenant le Seigneur leur dit, rentrez à Jérusalem et attendez. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, il parle aux disciples. Est-ce à dire que cette promesse n'est destinée qu'aux disciples, qu'à ces disciples-là? Non. À tous les disciples, oui. Mais qui est son disciple? Maintenant, Pierre, il dit, écoutez, ce n'est pas seulement pour nous, mais il dit, au verset 39 du chapitre 2 des Actes, il dit, la promesse du don du Saint-Esprit est pour vous, pour ceux qui étaient là, pour vos enfants, la génération suivante, et pour tous ceux qui sont au loin, ça c'est vous et moi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, je me suis repenti. J'ai continué. En me repentant de mes péchés, eh ben, je me suis fait baptiser. J'ai été baptisé. Je ne me suis pas arrêté là. Je dois continuer. Je continuais. Il y a un don du Saint-Esprit. Et je dois aller jusque-là. Pierre s'est arrêté là. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, il dit, la promesse est pour vous. Si il dit qu'elle est pour vous, elle est pour moi également. Ça signifie que je dois poursuivre. Je dois poursuivre le chemin. Les démons essaieront de me freiner, mais je dois poursuivre le chemin. Ça va? Oui, mais comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Luc. Chapitre 11, verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ça va? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'y a pas de fils qui viendra demander à son père, « Papa, donne-moi une pierre. Hein. » Ça va? Il va demander du pain. Maintenant, ce pain-là, que lui va demander, le fils ne sait pas ce que c'est que ce pain-là. Mais le Saint-Esprit sait ce que c'est que ce pain-là. Je ne sais pas ce qu'il va vous demander, votre fils. Il peut vous demander, par exemple, une PlayStation. Vous aimez beaucoup votre fils. Vous avez de l'argent pour lui acheter sa PlayStation. OK? Vous la lui achetez. Maintenant, cette PlayStation, devant Dieu, c'est quoi? C'est peut-être un scorpion que vous lui donnez là. Ou bien vous lui achetez une belle voiture qui peut faire du 300 à l'heure, mais vous lui donnez de quoi se tuer. Oui. Nous, on pense à un moment donné, c'est un beau cadeau. C'est ce cadeau-là, il peut faire mal tourner les choses. Dieu sait ce qui est bon pour nous donner. Alors, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Donc, pour que nous ne demandions pas des pierres ou des serpents, ou même, et pas fini, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Eh bien non. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sait ce qui est convenable de demander. Alors, comment recevoir le Saint-Esprit? Comment poursuivre le chemin pour avoir ce don-là? Je demande à Dieu. Et quand vous demandez, dans Luc 18, il vous dit, quand vous priez, verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, si nous continuons, et ne point se relâcher. Ne vous relâchez pas, ne vous arrêtez pas, ne commencez pas à geindre, à dire, mais frère François, j'ai déjà demandé, continuez. Il dit, ne vous relâchez pas. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Hein, il y a quelque temps, nous avons dit ici, c'est Dieu lui-même qui veut qu'on l'importune. D'ailleurs, ça ne l'importune pas. Ne croyez pas que vous le dérangez. Dites amen à ça. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Qui peut casser la tête de Dieu ici? Personne. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Oui, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Continuez à demander. Poursuivez la promesse. Elle est à vous. Allez poser la plante de vos pieds. Le Saint-Esprit est à vous. Ce n'est pas tout. Il ne faut pas seulement demander, vous connaissez aussi. Acte 5, n'est-ce pas? Vous connaissez aussi Acte 5. Acte 5. Alors, si vous voulez l'avoir, voilà comment l'obtenir. Il faut le demander à Dieu, c'est pas tout. Acte 5, Pierre qui a reçu le Saint-Esprit, avec d'autres, verset 29, acte 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, vous voyez, les deux choses que nous avons à faire, obéir à Dieu et le lui demander. Et quand on lui demande, c'est sans relâche. Ça va? Ne jamais vous arrêter là. D'ailleurs, il y a des frères dans... On va arrêter. Il y a des frères dans Acte 19 qui avaient cru en Jésus, qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Hein? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Donc, Darby s'est mis après que vous ayez cru. Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Eh bien, puis de toute façon, nous sommes bien comme ça. Non, non, vous n'êtes pas bien comme ça. Il faut aller jusqu'au bout. De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Ils répondirent, du baptême de Jean. Ben, c'est lui qui a baptisé le Seigneur, non ? Donc, c'est lui qui nous a baptisés. Alors, Paul dit, oui, d'accord, mais ce baptême-là n'est plus valable. Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc, ceux qui entraient dans les eaux du baptême montraient par là qu'ils acceptaient de se repentir. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, « Croyez, il y a quelqu'un qui viendra après moi, lui vous baptisera de feu et d'esprit. » Vous voyez? C'est ce que Jean leur demandait. Mais ici, désormais, croyez pour la rémission de vos péchés, hein, repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Et une fois que vos péchés sont remis, il y a un don qui vous attend. Le don du Saint-Esprit, il ne va pas vous être collé comme cela de force sur vous, mais il faut se battre pour l'avoir. Sur ces paroles, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. C'était une petite assemblée. Ici, je crois que nous sommes plus que 12. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas à la repentance. Ne vous arrêtez pas au baptême d'eau. Continuez la marche. Ça va? Et s'il y a des démons qui vous dérangent, poursuivez-les. Là où vous êtes, ce n'est pas leur territoire. Dieu veut vous placer en Jésus-Christ. Continuez d'avancer pour recevoir ce glorieux Saint-Esprit. On me dit, hein, beaucoup vont jusqu'à l'eau et puis ils s'arrêtent. Mais non, il ne faut pas s'arrêter là. Ah, gloire à Dieu, je suis baptisé. Donc c'était non. C'est le début. C'est le début d'une marche et de combat d'ailleurs. D'ailleurs, quand vous vous faites baptiser, vous déclarez la guerre, hein, aux démons. pour être un vaillant soldat. Quand vous tirez avec la fronde, la pierre là, c'est la foi. Quand vous tirez avec la fronde, vous devez être précis. Ça va toucher un cheveu qui se trouve à hauteur de Fabrice là, avec ma fronde, sans le rater. Amen. C'est Jacques qui dit, la prière du juste est efficace. Poursuivez-les. Ne vous arrêtez pas. On aurait pu continuer. Hein. Ce roi à qui le prophète demande tire des flèches, il tire. Mais le prophète ne lui dit pas de s'arrêter. Il en a tiré je ne sais plus combien. 3, je crois. Ou 4, je ne sais plus. Il tire. On peut le chercher. Hein. On va lire. On ne doit pas vous prendre du temps. Le prophète lui dit, mais pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi t'arrêtes-tu? Si tu avais tiré une flèche, encore une flèche supplémentaire, tu aurais vaincu tous tes ennemis. Deux rois 13. Non, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas dire, ah, maintenant, ce n'est pas grave, j'ai une grande victoire. Oui, tu as une grande victoire contre Goliath. Mais il faut continuer. Goliath, il a fait des émules. Il a des descendants, Goliath. Deux rois 13. On va y aller. Allez, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Il était malade. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, le roi ?» Hein, parce que le prophète, il valait un char. Le prophète, il valait toute une cavalerie. Il ne pouvait pas aller à la guerre sans le prophète. Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. C'est presque une imposition des mains. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il ouvrit. Élisée dit, « Tire !» Et il tira. Élisée dit, « Cette première flèche, c'est une flèche de délivrance. » Dieu te délivre. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Dieu te délivre des Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Yes, c'est une grande victoire. Oui, mais ne t'arrête pas. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Ah oui, c'était frappé. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, demander beaucoup pour que votre joie soit parfaite. Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Oui ? Un chrétien, il n'arrête jamais. Que Dieu vous bénisse. Prions. Et chacun prie. Père céleste, tu es bon. Création tout entière manifeste ta grandeur. Et lorsque nous la considérons, avons cette assurance que rien de fâcheux ne peut nous arriver si toi tu ne le permets. Si nous avons confiance en tes projets sur nous, car ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Aussi, nous te remercions. voulons te suivre sur le chemin pendant que tu nous conduis. Donne-nous la force de vaincre les obstacles. Donne-nous la force, ô Dieu, de vaincre les précipices, les gouffres. Et s'il faut traverser par une sombre vallée, nous avons confiance, car tu es là avec nous. Tu nous as donné les moyens, tu nous as donné un bon pays, où toutes les promesses, tout ce dont nous avons besoin s'y trouve. Tu nous les as promises, elles sont à nous. Tu nous as dit qu'en Christ, il n'y a que le oui. Et c'est là que nous voudrions nous mettre, là où il n'y a que le oui. Et nous te remercions pour toutes choses. Te remercions pour ton oui. Oh, pour ce don merveilleux que tu nous as fait. Merci Seigneur. Aide-nous à ne pas nous arrêter à mi-chemin, mais que nous puissions aller, comme dit le frère qui a composé le cantique, c'est jusqu'au bout que nous voulons arriver. Jusqu'au bout, nous voulons te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Te remercions pour la soirée que tu nous as accordée en ce jour, pour la réunion qui a eu lieu, que nous venons d'avoir. Te remercions pour la parole qui a été apportée. Puissions-nous vraiment, ô Dieu, nous saisir de ces choses qui viennent de ta parole et marcher toujours en te faisant confiance. Nous te bénissons, te louons, te demandons de bien vouloir, ô Dieu, nous raccompagner alors que nous allons rentrer dans nos maisons, que tu nous assistes, que si tu tardes, que tu veuilles encore nous accorder dès le lendemain, comme vendredi, comme dimanche, où nous pouvons à nouveau nous rassembler autour de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.